de l'Atlantique, c'est l'illusion du rempart. Mais en même temps, c'est la fin de la vitesse. La vitesse vient s'échouer. Et donc c'est cet échouement qui m'a permis, moi qui n'étais pas collaborateur ni résistant, j'avais 10 ans, de comprendre ce qu'était et la vitesse et la guerre. Pour moi, la guerre et la vitesse, c'est la même chose. Pour moi, la vitesse, c'est la violence de la violence. C'est la violence suprême. Je donne un exemple. Avec ma main, je peux caresser la joue d'une femme ou d'un enfant. Avec la même main, je peux faire un impact sur cette joue. C'est la même main, c'est pas la même vitesse.
Dans le sillage de l'urbaniste Paul Virilio, penseur de la vitesse qu'on vient d'entendre, de la vitesse et la critique sociale du temps du philosophe allemand Hartmut Rosa, la psychologue Nicole Aubert poursuit une réflexion entamée en 2003 avec le culte de l'urgence, la société malade du temps. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, gagner en vitesse, est-ce perdre du temps? On va se poser la question avec notre invité, le sociologue Vincent de Goljac. Entouré d'une vingtaine d'auteurs, dont lui, elle a étudié, Nicole Aubert, dans À la recherche du temps, qui paraît chez RS, les conséquences de cette injonction permanente à accélérer dans tous les domaines, du plus individuel au plus collectif, avec des développements particulièrement intéressants sur les enjeux de l'accélération en démocratie. Vincent de Goljac, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de sociologie à l'UFR de sciences sociales de l'Université Paris Diderot, professeur émérite. Vous animez la collection Sociologie clinique chez RS, l'éditeur de cet ouvrage collectif, et vous êtes par ailleurs l'auteur en solo de Le capitalisme paradoxant, un système qui rend fou, enfin en solo. C'était avec Fabienne Annick et l'ouvrage est paru au Seuil en 2015. Et il y a effectivement un sacré paradoxe dans ce que nous vivons aujourd'hui et qu'on pourrait résumer comme tel. D'un côté, l'accélération technique dans les transports, la production, la communication aurait dû nous faire gagner du temps. Au contraire, le temps nous est ou nous semble de plus en plus compté. Donc c'est ce paradoxe qu'on va essayer de comprendre et d'expliquer ensemble. Juste un mot de cet emprunt à Proust, à la recherche du temps, le perdu a disparu. Et pourtant, cet emprunt, il n'est pas gratuit, non?
À la recherche du temps, donc on l'a mis, les auditeurs ne peuvent pas le voir, mais avec arrobase. Et donc c'est ce paradoxe... que plus on gagne du temps, moins on en a, effectivement, au cœur de nos sociétés hypermodernes. Et Hartmut Rosa le décrit bien à propos des courriels. Ce qu'il dit, c'est qu'en fait, plus on gagne du temps, plus il y a de l'intensité, et donc on peut multiplier par 3, par 4, par 5 son occupation du temps. Et le temps devient une valeur qui doit être en permanence prise dans cette logique de rentabilité, de productivité, d'utilité. Il faut que le temps soit utile. Alors on en a plusieurs exemples, les courriels.
Voilà, c'est l'idée qu'avant on écrivait des lettres.
Avant on écrivait des lettres, donc ça avait 2, 3, 4 lettres. Et puis on avait 3 jours, 4 jours, une semaine, quand c'était à l'étranger, 15 jours, pour recevoir la réponse. Et là, aujourd'hui, on envoie 20, 30, 40, 80. C'est un indicateur, d'ailleurs, de statut social aujourd'hui, de savoir le nombre de mails utiles, je ne parle pas des spams, que vous recevez par jour et qui nécessitent une réponse. Et donc, on en est pour tous ceux qui ont des responsabilités, c'est 40, puis 80, puis 100, puis 200. Donc, comment on fait avec ça? Et avec cette espèce d'injonction de réactivité, de flexibilité qu'il faut répondre dans l'immédiateté. Et donc un des aspects qui correspond à l'accélération, c'est cette immédiateté, cette flexibilité, cette réactivité qu'on exige maintenant des individus. Au départ, c'était dans les multinationales. Et maintenant, c'est toute la société qui est prise par ce phénomène d'accélération.
Voilà. Avant, hier, on écrivait une lettre et on a pensé qu'on gagnerait du temps en envoyant des mails, des courriels.
Mais on en
gagne. Réalité, on en gagne, mais du coup, on en profite pour être beaucoup plus productif. Et à la place d'une lettre, on en écrit 5 réponses. Voilà ce qui se passe aujourd'hui.
Il y a deux phénomènes. Parce que à la personne à qui on écrit, elle répond tout de suite. Donc, il y a cette réactivité. Et puis, l'outil, c'est ça le paradoxe, c'est que cet outil est tellement formidable. Qu'est-ce qui nous fait gagner comme temps? C'est extraordinaire. Et en même temps, il nous prend dans une logique absolument impossible.
Un engrenage, voilà. Alors, à propos de Proust et de cette référence, deux des auteurs de cet ouvrage collectif, À la recherche du temps, Jean-Philippe Bouillot et Olivier Fourneau, l'écrivent, l'œuvre de Proust, qui suivait des cours de Bergson au Collège de France, en explorant le rapport au temps passé, redéfinit tous les codes narratifs du roman moderne et annonce toute une littérature propre à la vitesse. Mais d'ailleurs, dans ce livre, il faut préciser que vous avez, Vincent Goljac, avec les co-auteurs de cet ouvrage collectif, surtout étudier notre relation au temps présent, vous l'explorez sous toutes ses formes, un temps perdu, mais perdu dans le sens de dilution, dilué dans une instantanéité. On a donné l'exemple des mails, des courriels, on peut en donner un autre, celui de la voiture, avec le mathématicien philosophe Olivier Rey, qui expliquait alors, à travers cet exemple, les seuils de contre-productivité d'Ivan Illich.
Alors par exemple, on va se dire, voilà, bon, on allait à pied, on va avoir des voitures, et donc avec la voiture, je vais aller beaucoup plus vite d'un endroit à un autre, et donc je vais gagner beaucoup de temps. Mais alors, évidemment, au début, c'est comme ça que ça se passe. Mais à partir du moment où la voiture va se généraliser, en fait, on va dire, ben oui, mais pour que les voitures puissent bien fonctionner, il faut faire des routes, des autoroutes, etc. Donc on va déjà reconfigurer entièrement le monde en fonction de l'existence de la voiture. Et une fois que l'on suppose que la plupart des gens ont une voiture, à ce moment-là, comme le monde est reconfiguré autour de cette hypothèse, en fait, les distances à parcourir vont énormément s'allonger. Et par exemple, au lieu d'avoir des commerces de proximité, les commerces de proximité vont mourir, et puis le commerce va se concentrer dans des gigantesques centres commerciaux dans lesquels il sera obligatoire d'avoir une voiture pour pouvoir s'y rendre. Donc vous voyez qu'au début, de toute façon, vous pouviez aller vous alimenter à pied à l'épicerie du coin. Et puis si vous aviez une voiture, vous aviez la possibilité de prendre votre voiture pour aller plus loin, éventuellement vous alimenter. Mais une fois que les commerces de proximité a disparu, la voiture n'a pas rajouté une possibilité à celle que vous aviez, elle a détruit la possibilité que vous aviez auparavant, et vous êtes obligé d'en passer par la voiture pour aller en plus dans des endroits lointains. Et là, on arrive à ce paradoxe extraordinaire, c'est que à un moment donné, plus les moyens de transport deviennent rapides, plus le temps que l'on passe dans les temps à se transporter s'allonge. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au XXe siècle, avec tous les moyens de transport rapides dont nous disposons, nous passons plus de temps dans les transports que les gens au XIXe siècle.
Voilà, c'était Olivier Rey devant la caméra du média en ligne, hors série, Vincent de Goljac. Elle est là, la promesse contrariée. Elle est là, cette fameuse société paradoxante, comme oui. Vous l'avez qualifiée. C'est totalement
l'exemple
absurde,
de la voiture
au fond.
Est excellent. Et aujourd'hui, notre société, on reconfigure le monde autour de la révolution numérique. Et on pourrait reprendre exactement la même analyse. Par exemple, la révolution numérique permet de prendre ses billets, c'est très pratique parce qu'on reste chez soi, etc. Donc on supprime les guichets et donc on supprime la relation humaine et les personnes qui vous rendent service. Et en plus de ça, non seulement c'est utile, mais c'est à nous de faire le boulot maintenant. C'est-à-dire on enlève de la compétence et du travail par cette révolution numérique qui permet aux consommateurs de faire le boulot. Donc c'est les machines et c'est cette société robotisée. Et ce qui dit hein, sur le paradoxe des transports, plus les transports sont rapides, plus le temps de transport s'allonge, et ben c'est plus la vie devient pratique avec la révolution numérique, et plus on passe un temps inimaginable devant son ordinateur, ce qui évidemment transforme radicalement le temps de l'existence humaine. Parce que c'est pas seulement du temps quantitatif, c'est du temps qualitatif, et c'est aussi cette existence et ce sentiment d'être dépossédé de toute une partie de la maîtrise sur son environnement, parce qu'on passe par des drôles de machines, de l'intelligence artificielle, maintenant les algorithmes à haute fréquence, qui changent complètement notre rapport au monde et donnent ce sentiment pour certains d'être exclus, c'est la fracture numérique, tous ceux qui rentrent pas dans cette logique-là ont le sentiment qu'ils n'ont plus d'existence sociale. On pourra revenir sur la question des gilets jaunes, où il y a beaucoup de retraités, par exemple, qui sont dans cette situation. Ou alors on s'adapte et on rentre complètement dans cette logique et on devient un homo numericus qui va passer 5, 10, 12, 15 heures devant son ordinateur, devant son smartphone, et qui va utiliser tout le temps qui était avant de repos, de désœuvrement, de contemplation, de perte, je mets perte entre guillemets de temps, puisqu'il faut maintenant, il peut annuler toute cette perte de temps pour rendre le temps utile, rentable et productif.
Et cette accélération, elle entre par les pores de la peau, mais elle vient aussi s'immiscer jusque dans notre cerveau. Aujourd'hui, Vincent de Goljac, elle est totalement intériorisée, cette nécessité d'aller vite, de faire vite. Chaque individu devient comptable de son temps, doit le rendre utile et rentable en toutes circonstances. Il faut rentabiliser le temps libre, il faut rentabiliser l'attente, il faut occuper l'ennui. D'où vient cette peur du vide qu'on a développé collectivement et que vous aimeriez aussi d'une certaine manière réhabiliter?
Alors, il y a une emprise mentale sur les neurones, sur le cerveau, et une emprise psychique. Et c'est les deux qu'il faut prendre en compte pour comprendre ce nouveau mécanisme de servitude volontaire. Je vois un manager qui me disait « C'est formidable, aujourd'hui on est libre de travailler 24 heures sur 24 ». Et c'est ça, cette société paradoxante. C'est que d'un côté, ça nous donne une liberté dans le rapport au travail formidable, puisque vous pouvez emmener votre bureau avec vous et travailler en vacances. Travailler dans le train, travailler dans les transports, travailler là où vous allez. Donc vous avez une liberté formidable de pouvoir changer votre rapport au travail et emmener avec vous votre bureau à travers votre ordinateur, votre smartphone. Et en même temps, quand on dit « je suis libre de travailler 24 heures sur 24 », il y a un moment où on pensait que ça, c'était vraiment l'aliénation maximum. Mais même Orwell, dans 1984, n'aurait pas pu imaginer qu'il avait raison à ce point-là, et les formes que ça prendrait. C'est-à-dire que c'est chacun qui... Vous êtes libre. Vous pouvez fermer votre ordinateur, vous pouvez ne pas répondre aux mails, vous pouvez organiser votre temps comme vous voulez. Mais la logique fait que si vous faites ça, vous risquez de décrocher. Être joignable à n'importe quel moment et n'importe où, c'est la liberté d'être branché, disait une pub de justement pour des ordinateurs et autres. Et cette liberté d'être branché, c'est la nouvelle forme d'aliénation qui nous fait rentrer dans une logique de flexibilité, utilitariste et qui est très très liée. Alors il faut pas l'oublier, cette transformation, elle est liée d'une part à la révolution numérique, c'est-à-dire aux technologies qui permettent ça, mais elle est liée aussi au développement du capitalisme financier et cette rupture entre les marchés financiers, les algorithmes de haute fréquence, etc., qui donne cette accélération sur les enjeux en termes de spéculation, de rentabilité, etc., et l'économie réelle. C'est-à-dire l'économie réelle, c'est la production de biens et de services concrets. Et cette tension-là qui fait que les marchés financiers deviennent l'élément déterminant du développement de l'économie et du capitalisme, utilise massivement ces nouvelles technologies pour imposer des logiques mais qu'on ne voit pas. C'est-à-dire c'est pas un patron qui vous demande de faire ça, c'est vous-même qui est pris dans cette logique-là.
Et à force d'être soumis à cette tension permanente, eh bien certains craquent, on appelle ça le burn-out, témoignage d'une manager, c'était sur France Info en 2016.
Toute mon énergie vitale avait disparu. Quand on vous demande de faire plus 15% sur un marché qui est à moins 2, sur un marché qui régresse, sur lequel on vend de moins en moins, c'est totalement impossible. Et pourtant, on vous dit « c'est ça ton objectif pour l'année ». Je me suis sentie décalée, je me suis sentie écartelée, en sachant que de toute manière, je n'y arriverais pas, mais en étant censé ne pas le montrer à mes équipes et au contraire les motiver et leur montrer le contraire. Je travaille jusqu'à 21, 22 heures, ou alors je rentre un peu plus tôt pour voir mes enfants, mais je rapporte du travail à la maison et je travaille le soir. Je travaille le week-end et mes vacances, c'est pareil, j'emporte du travail. Etc. Je reste en contact avec l'univers du travail, donc je ne débranche jamais. Il y a eu des périodes où j'allais dormir dans les toilettes. Je m'allongeais en U autour des toilettes pour dormir.
Au travail?
Au travail. J'allais prendre une sieste d'un quart d'heure parce que j'étais à bout de fatigue.
Vincent de Goljac, quels sont les mots que vous retenez dans ce témoignage?
J'étais à bout de fatigue. Dormir dans les toilettes. Il y a un livre qui est paru d'un Américain, le capitalisme à l'assaut du sommeil, qui fait la démonstration qu'aux États-Unis, depuis 60 ans, on dort 2 heures de moins par jour. Et en France, on ne doit pas être très très loin de ça. C'est-à-dire, c'est très bouleversant son témoignage, parce que voit bien qu'à la fois elle subit quelque chose complètement, et en même temps elle est prise, elle a une responsabilité, elle est manager, etc. Et donc elle est la tension dans laquelle elle est, c'est être entre l'individu qui s'adapte, qui devient l'homo numericus et qui va s'adapter le mieux possible à ses exigences, de ses objectifs qu'il faut remplir, et comment je peux continuer quand même à maîtriser ma vie et à devenir comme un sujet de mon existence et à continuer à m'occuper de mes enfants, à prendre un peu de repos, etc. Et cette tension-là, elle n'est pas seulement liée au manager maintenant, c'est eux qui l'ont connu le premier, et le burn-out a émergé. On avait fait un livre avec Nicole Aubert, Le coût de l'excellence, dans les années 80-90, où on avait fait la démonstration que cette exigence de performance et d'excellence produisait effectivement le burn-out. On est parmi les premiers chercheurs à montrer ces cas de managers qui étaient pris dans cette logique-là. Et aujourd'hui, c'est toute la société. Et l'autre chose qui m'émeut beaucoup, c'est, enfin, qui est paradoxante là-dedans, quand on évalue les managers sur leur performance, c'est le management par objectif. Pour avoir A, il faut être clearly outstanding, c'est-à-dire clairement hors du commun. Cette exigence, son épuisement, il vient que les objectifs, elle est toujours en course, elle les atteint. C'est elle qui intériorise cette exigence qui lui est donnée par rapport à ce management par objectif et qu'elle donne à ses collaborateurs et qui les met dans une logique de l'exigence du toujours plus. Mais le paradoxe qu'on voit bien dans notre société aujourd'hui par rapport à ça, clearly outstanding, ça veut dire clairement être hors du commun. C'est le mythe des premiers de cordée. C'est-à-dire l'exemple de ceux qui réussissent, malgré tout, à résister au stress, à résister à la pression, à résister à cette exigence du toujours plus et qui en sortent les premiers de cordée qui vont entraîner tout le monde. Mais si tout le monde devient hors du commun, que devient le monde commun? C'est-à-dire, Anna Arendt disait, la politique, c'est de cultiver le monde commun, que chacun puisse avoir sa place, etc. Or, on est aujourd'hui dans une société paradoxale qui, effectivement, exige de chaque individu, pour être reconnu socialement, pour avoir sa place dans la société, de montrer ses performances, ses compétences, ses qualités, d'être au top du top, hein, une espèce de société des meilleurs élèves qui ont fait les grandes écoles, eh ben, l'excellence produit l'exclusion. Et donc, vous avez une tension de plus en plus forte, hein, entre ceux qui réussissent et ceux qui sont laissés sur le carreau.
Et ça nous rapproche de ce que vous avez appelé la métaphore de l'orchestre. Elle est aussi, à sa manière, un chef d'orchestre, cette manager. La difficulté dans le monde actuel, c'est que nous sommes tous liés, tous connectés, et que l'harmonie de chacun dépend de celle des autres. Hein. Quelle est cette idée pour vous? Vous pouvez nous raconter comment vous avez défini cette métaphore?
Oui, j'aime bien cette métaphore, c'est-à-dire que c'est comme si chacun était renvoyé à lui-même pour réussir et faire sa partition. Donc c'est comme si dans un orchestre, hein, chacun suivait sa partition en essayant d'être le meilleur possible par rapport à ses critères à lui. Et du coup, la conséquence de l'individualisation. Hein, chacun devient comptable de ses propres performances et du coup, comment on peut jouer, continuer à jouer ensemble avec des gens qui ont des instruments différents, qui ont des partitions différentes et dont chacun essaye d'aller toujours à son rythme ou un peu plus, ou un peu plus. Et donc du coup, ça crée de la cacophonie. Or notre société, c'est une société cacophonique. Ce qui se passe aujourd'hui le montre parfaitement. Hein, on dit, mais ils sont pas tous d'accord, ils ont des revendications différentes, etc. Bien sûr, une société, elle est faite de diversité, et le politique, c'est justement celui qui devrait jouer ce rôle de permettre à chacun de jouer sa partition et que l'ensemble soit harmonique.
Alors, est-ce qu'il faudrait décréter un lundi sans portable, comme certains appellent un lundi sans viande? Est-ce que les outils numériques, à force d'être entrés matin et soir, week-end et jours fériés dans la vie des salariés, ne nous empêchent pas aussi de parfois déconnecter, prendre du temps. Vous, vous plaidez tous, autant que vous êtes les auteurs de cet ouvrage, à la recherche du temps pour un droit à la déconnexion, mais droit qui a beaucoup de mal à s'installer aujourd'hui en France. Pourquoi la gestion collective de ce droit est très compliquée à mettre en place?
C'est compliqué, et puis est-ce que ça résoudrait vraiment le problème? C'est-à-dire, ça, c'est une conduite d'adaptation, c'est-à-dire essayer de vivre avec en limitant les dégâts, en limitant, par exemple, l'envoi des mails à partir de 18h, 19h ou 20h, ou les réunions, ou le droit à la déconnexion, etc. Mais en même temps, c'est nier le fait que c'est les gens eux-mêmes qui produisent ça. Par exemple, par rapport au temps de sommeil, comme on sait que si on se déconnecte, on va avoir 80 mails à régler avant de régler les mails qui vont arriver, bah si on a une insomnie le soir ou autre, même si on a le droit de se déconnecter, on va se reconnecter pour se rendre pouvoir s'adapter à cette exigence permanente. Mmh. Alors, dans le livre, effectivement, on est aussi des utopistes. Et donc, on essaie. Je développe l'idée qu'il faut essayer de célébrer l'hypomodernité et pas seulement l'hypermodernité. Et l'hypomodernité, c'est quoi? C'est par exemple le fait de retrouver. Vous parliez à la recherche du temps perdu de Proust. Cette société où on avait le temps d'écrire, où on avait le temps de rêver, où on avait le temps d'être désœuvré, de n'avoir rien à faire et tout. Alors on peut se dire, mais ça c'est un monde d'aristocrates, c'est un monde qui est pas adapté à cette hypermodernité de la réussite, de l'excellence, de l'économie, etc. Oui, effectivement, c'est retrouver un temps qui ne soit pas complètement soumis à cette exigence de productivité, de rentabilité et d'utilité. Je prends l'exemple, par exemple, du jogging, du sport et des activités qui sont censées être hors travail. Aujourd'hui, elles sont complètement soumises, elles aussi, à cet impératif de performance. Vous croisez le dimanche matin, ces joggeurs qui font ça pour être en forme et en bonne santé, qui ont des appareils partout pour mesurer leur performance, leur battement cardiaque, le nombre de kilomètres qu'ils ont fait, le nombre de foulées qu'ils ont fait, etc. C'est-à-dire, ils intériorisent eux-mêmes l'évaluation de leur propre performance. Donc, cela, vous pouvez leur donner le droit de se déconnecter. Ils sont tellement... l'emprise est tellement intériorisée que c'est pas ça qui va résoudre le problème.
Et cette accélération a même des conséquences sur notre manière de percevoir, de penser et de dire le temps, ce que rappelle Nicole Aubert aussi dans cet ouvrage, cette compression qui traduit le fait que de plus en plus de choses doivent être accomplies dans la même unité de temps, et l'accélération du temps qui correspond au sentiment que le temps passe de plus en plus vite. À propos de ces corps qu'il faudrait préserver, il y a aussi une des contributions très intéressantes qui a été réalisée dans les salles de sport. Est-ce que chacun peut investir dans ces moments-là, à la fois comme dépassement de soi, mais aussi comme possibilité de s'y retrouver et de retrouver le contrôle de son corps. En amour comme au travail, l'angoisse du temps pousse à effleurer plutôt qu'à s'attarder, selon l'historien Richard Sennett que vous citez, l'auteur du travail sans qualité. Je vous propose d'écouter les mots de l'écrivain Christian Bobin.
Il est possible que le monde moderne soit comme une sorte d'entreprise anonyme de destruction de nos forces vitales, sous prétexte de les exalter, de destruction de la capacité qu'on a d'être attentif, d'être rêveur, d'être lent, d'être amoureux, de faire des gestes qu'on ne comprend pas, gratuits. Il est possible que tout le monde moderne que nous avons fait lever, se lever, et qui nous échappe de plus en plus, soit une sorte de machine de guerre, impavide, impassible. Et je pense que, par exemple, les livres, l'écriture, la beauté, la poésie, certaines musiques, peuvent nous ramener à nous-mêmes, nous redonnent des forces pour lutter contre cette sorte d'éparpillement où nous nous trouvons avec une âme déchiquetée à tous les bouts de la planète, lancée aux chiens comme ça. Le resserrement sur quelques phrases, sur un visage, sur un lien, sur la vie ordinaire, tout ça, c'est quelque chose qui nous donne des forces pour résister. C'est le grand mot, c'est résister.
Voilà l'écrivain Christian Bobin, auteur de L'Homme-Joie, en 2012, au moment de cet entretien qu'il donnait sur France Inter. Vous retrouvez là ce que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire comment se construire des moments hors du temps où l'on puisse se retrouver.
Richard Sennett, que vous avez cité, disait qu'avec le développement de l'individualisme, le moi de chaque individu est devenu son principal fardeau. J'ajouterais qu'avec le développement de la révolution numérique et managériale, le moi de chaque individu est devenu un capital qu'il faut faire fructifier. Et donc cette double exigence explique les mal-êtres de l'individu hypermoderne, de l'individu contemporain. Hein, quand il dit l'âme déchiquetée, c'est-à-dire, c'est ce que moi je... Déchiquetée, c'est... Le terme est une belle métaphore, mais je préfère parler de société paradoxante. C'est-à-dire qu'on est tous pris dans des dilemmes impossibles. Alors, par exemple, cette exigence de performance nous oblige à être des supermen ou des superwomen, où il faut être performant dans son activité professionnelle, mais aussi physiquement, sexuellement, dans sa vie amoureuse, dans sa vie dans l'entretien de son corps. Et vous avez cette culture des fitness, de ces lieux où on vous propose, pour vous adapter à cette exigence-là, des remises en forme, du coaching. Alors, le terme coaching est intéressant parce qu'au départ, c'était pour les sportifs, mais maintenant, on a besoin de coach à peu près dans toutes les activités humaines pour pouvoir répondre à cette exigence d'être toujours en forme, toujours bien, toujours dans la réussite, en allant excellence.
Oui, vous allez même plus loin, Vincent Goljak, en disant que toutes les limites aujourd'hui doivent être dépassées. C'est un nouveau rapport aux limites, aux interdits, qui engendre de la frustration, qui est revisité et qui nous appelle à dépasser tout ce qui avant était aussi des garde-fous à travers ces limites-là.
Je dirais juste, pour reprendre une lecture psychanalytique de ce que vous dites, on était dans le monde du surmoi qui fixait des interdits et qui était perçu comme répressif. Aujourd'hui, on est dans le monde de l'idéal du moi et du narcissisme, c'est-à-dire dans cette de penser que la réalisation de soi-même, ce n'est pas de faire bien son travail, c'est d'être toujours le meilleur par rapport à ce qu'on fait. Et ça, cette exigence de l'idéal du moi qui vous pousse à faire des performances, à être le plus riche. Vous avez cette étude d'Oxman là, qui vient de paraître aujourd'hui, qui dit que 26 milliardaires possèdent autant que la moitié de l'humanité. C'est ce monde-là qui est produit par cette espèce d'exigence, toujours plus, toujours plus, toujours plus de richesses, qui évidemment exclut toujours plus de personnes.
Et un rapport compulsif à l'instant présent qui nous empêche de construire le monde futur, de nous projeter aussi. Invité de la grande table des idées aujourd'hui, le sociologue Vincent de Goljak, qui est l'un des auteurs d'un ouvrage collectif à la recherche du temps, qui paraît chez ERES, dont vous dirigez d'ailleurs la collection Sociologie clinique.
France Culture. La grande table. Olivia Jesper.
J'entends dire régulièrement que le temps s'accélère. Alors ça me surprend toujours parce que le temps déjà n'a pas de vitesse. Parler de la vitesse du temps, dire que le temps va vite ou moins vite, est une sorte d'absurdité pour un physicien. Parce que une vitesse en physique, c'est une dérivée par rapport au temps. Et donc, en termes moins techniques, dire que le temps a une vitesse sous-entendrait que le temps se déplace par rapport à lui-même. Bon. Et qu'il a une accélération, ça voudrait dire que cette vitesse elle-même peut augmenter ou diminuer. En réalité, le temps n'a pas de vitesse. Et quand nous disons que le temps s'accélère, en fait, ce que nous disons, c'est que nos déplacements, notre production, le rythme de nos échanges, notamment par Internet, augmente, va de plus en plus vite, mais ça n'a rien à voir avec le temps. Ce qui s'accélère, c'est ce qui se passe dans le temps et non pas le temps lui-même.
Le physicien Étienne Klein, le temps n'a pas de vitesse, mais on voit actuellement aussi un gouvernement et un président pris par le temps depuis le début de la contestation des Gilets jaunes. Quel effet pour vous cette accélération a-t-elle eu aussi sur le politique ?
J'ai une hypothèse, j'avais écrit un livre, La société malade de la gestion, où j'avais essayé de montrer que les politiciens aujourd'hui ne faisaient plus de politique, c'est-à-dire de penser la société, le monde commun, l'être ensemble, mais qu'ils étaient devenus gestionnaires et qu'ils étaient eux aussi soumis à cette idéologie managériale de l'exigence du toujours plus, de l'évaluation par les résultats, de l'avancement au mérite, de du management par objectif, etc. Et le Emmanuel Macron est vraiment le prototype même hein, de ce président manager qui nous avait proposé des promesses de changer ce monde et il avait dit qu'il allait le faire effectivement dans pour créer un monde nouveau. Sous-entendu créer un monde nouveau, tous les anciens avaient échoué et tout ça, et il allait réussir ce que les autres n'avaient pas réussi à faire. Et il a embarqué son mouvement en marche pendant la campagne électorale, vous parliez de compulsivité tout à l'heure, de fébrilité, dans un mouvement qui a emporté tout le monde, qui était complètement dans cette idéologie managériale de pragmatisme, de réactivité, de flexibilité, d'objectivité, une espèce de rationalisation instrumentale, que en fait c'était une bonne gestion qui allait être efficace et qui allait optimiser les ressources de l'entreprise France pour les adapter à la création de ce monde nouveau. Et quand on prend ces mesures symboliques, hein, il y avait cette idée qu'il fallait tout évaluer, l'évaluation par les résultats, etc. Et puis ce rapport au temps, hein, qui est que, Emmanuel Macron, on le sait, c'est un homme qui dort peu et qui travaille beaucoup. Et il a mis tous ses collaborateurs en burn-out, il a mis son gouvernement en burn-out et il a mis la France en burn-out. Et c'est quoi le burn-out, si je peux me permettre de déplacer cette métaphore qui vient de la psychopathologie à la société? C'est cette tension dans laquelle on est mis, il a mis toutes les... Enfin, c'était déjà avant, mais toutes les institutions aujourd'hui sont en crise. Pourquoi? Parce que, au lieu d'être... Les finalités changent. C'est pas la mission qui est donnée à l'institution, l'hôpital, l'université, la recherche, la sécurité, etc., qui devient l'élément central. C'est la gestion des moyens pour obtenir ces finalités qui vont être évaluées en fonction de résultats, d'indicateurs, etc. Et donc, ce déplacement qui fait que c'est comme dans les ressources humaines. Quand vous parlez des ressources humaines, on pourrait penser que l'humain que l'entreprise est une ressource pour une finalité qui est l'humain. Or, ressources humaines, c'est l'humain qui devient un moyen qu'il faut développer par rapport à une finalité qu'est l'entreprise. Et c'est toute la société aujourd'hui qui doit se mettre au service de la réussite économique et d'enjeux financiers, comme si le fait de résoudre ces enjeux financiers allait permettre de résoudre l'être ensemble.
Et en même temps, il semble être tombé dans son propre piège temps, en tout cas de la temporalité qu'il a donnée, puisqu'il y a eu aussi à travers ce mouvement, on l'a entendu, une attente de réactivité très forte et rapide et immédiate. On attendait des réponses et du changement qui arrive tout de suite. C'est intéressant, alors qu'aujourd'hui, le gouvernement, l'exécutif est en train d'ouvrir ce grand débat national, d'entendre en même temps les ministres dire qu'ils vont continuer ce rythme rapide des réformes et qu'ils n'ont pas l'intention de ralentir sur ce point-là.
Et qu'elles sont censées répondre aux attentes des Français, alors que les Français leur disent que ça ne répond pas à leurs attentes. Et il y a une espèce de schizophrénie et de paradoxe total entre d'un côté des gens qui disent « écoutez-nous, nous c'est des problèmes concrets qu'on a, des problèmes de fin de mois » ou des problèmes d'accessibilité à la maternité, aux services publics, etc. Écoutez-nous, entendez ça. Et la réponse, c'est de dire, oui, mais nous, on a un cap qui va permettre de répondre à tous ces problèmes-là, et donc on ne changera pas de cap parce que c'est le bon. Et donc, on est là dans une espèce de double bind, double bind, c'est...
Je vous laisse faire la traduction.
Double contrainte, c'est une injonction paradoxale. C'est-à-dire de deux termes qui doivent être en même temps, dans la même proposition, et qui sont parfaitement incompatibles.
Merci beaucoup à vous. Merci Vincent de Goljac. Je rappelle le titre de cet ouvrage collectif, À la recherche du temps, individu hyper connecté, société accélérée, sous la direction de Nicole Aubert, qui vient de paraître aux éditions RS. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à Maya Neskovic et Laura Dutèche-Pérez pour La Grande Table des idées, à Oriane Delacroix avec Henri Leblanc pour La Grande Table culture, avec l'aide précieuse de Jordan Joseph et de Jeanne Copé. À la réalisation aujourd'hui, c'était Milena Elig avec Jean-Guilain Meige. Très bel après-midi sur France Culture.